On est en deuxième partie d'émission et alors maintenant on reçoit deux invités, donc Lula et Julien, c'est ça, pour la grue, qui vont venir nous parler alors un petit peu de bibliothèque, mais aussi comment réinventer un monde sans police. Et en plus on a à côté Raphaël. Raphaël, tu es là pour quoi alors ?
Alors moi je suis avec les Maraudes de Bruxelles, c'est une association qui fait, on fait des maraudes du travail social de rue, donc on va vers les personnes en situation de rue. Et donc avec un peu des apports alimentaires, on essaie vraiment de pouvoir dépasser ça et de créer des liens de confiance avec les personnes et des liens sociaux. Et puis après, pour être personne de référence et pouvoir les aider. Et de manière générale, Esperanza aussi, pour parler un peu de tous les enjeux du sans-séchoirisme et les différentes populations et qu'est-ce qu'on peut, on peut essayer de penser et faire ensemble.
Voilà. Donc là, comme ça, vous avez les grandes thématiques qui vont être abordées là, dans les 30 minutes qui viennent. Et à mes côtés, alors...
Nathalie
qui est sur son premier live, félicitations. En plus c'est un exercice compliqué quand il y a du public. Et donc moi je voulais d'abord poser une petite question collective, puisque vous avez quand même un lien entre vos deux associations qui sont présentes ici au Village des Possibles à Esperanza. C'est en quelque sorte donner la chance à un peu n'importe qui n'a pas spécialement, dans certains cas, de ressources, d'avoir quand même accès à un certain confort, que ce soit un confort avec les besoins vitaux, donc la nourriture, le besoin de logement et de réalisation de soi, ou bien avec la culture. Comment est-ce que ça vient, en quelque sorte ? Comment est-ce qu'on fait à un moment le choix de se tourner vers ce genre de démarche ? Julien, comment ça t'est venu pour toi, en tout cas?
Cette démarche, elle a apparu en fait assez normale quelque part dans mon parcours de vie. Je pense que ça fait partie en fait des choses qui touchent au quotidien. Et en fait, les différences de traitement, les inégalités en fait et l'injustice qui existe autour de nous, en tout cas autour de moi, m'ont toujours beaucoup touché. Et en fait, ça me semblait presque une évidence, en fait, de si y a un projet dans lequel j'ai envie de m'investir en tant que tel, ça a un lien et ça permet de participer à gommer certaines parties des inégalités et des injustices.
Et toi, Raphaël, alors, ça arrivait comment ?
Et pareil, je pense que pour beaucoup des personnes ici, ça, les actions, elles viennent dans un parcours militant. Mais pour ce travail, pour les personnes sans chez soi, c'est... C'est aussi en étant citadin, si les connards d'extrême droite disent no SDF, c'est aussi parce que c'est une des choses qui est très visible et sur laquelle il peut avoir qui appelle à une réaction et qui n'a pas toujours lieu, mais je pense que pour beaucoup des gens c'est un peu une évidence et le pas vers le plus facile pour aller vers voir des gens qui sont juste là et présents et
Et donc concrètement, un petit peu dans vos projets, comment ça se met en place ? C'est quoi vos infrastructures en quelque sorte ? Est-ce que vous recevez aussi d'aide d'autres ASBL avec qui vous travaillez ?
Alors nous, c'est nous pour les maraudes et autres, c'est quelque chose de... notre association est assez jeune, mais c'est quand même tout un... Il y a beaucoup de choses à Bruxelles, beaucoup d'associations qui font des choses un peu différentes avec une coordination qui se fait plus ou moins, mais il y a... Parce que c'est des problématiques qui sont vraiment plurielles. Il y a évidemment un problème de logement, mais il y a aussi des problèmes d'accès aux soins de santé. Il y a une violence administrative. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourra se retrouver là-dessus, des violences administratives inouïes sur beaucoup de publics différents. Et donc il y a toute une aide de santé mentale aussi. C'est quelque chose qui nécessite une pluralité d'acteurs et c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place.
Et dans le cadre, notamment, vu que vous faites de la distribution alimentaire, comment est-ce que vous travaillez pour aller chercher ? Est-ce que c'est il y a un financement qui vient derrière ou c'est plutôt des invendus que vous allez récupérer pour ensuite les redistribuer ?
Les financements sont vraiment très limités et donc il y a une distribution, une partie qui est faite à partir d'invendus, mais après on se dit que on voit pas vraiment notre rôle comme les personnes qui vont apporter des repas, parce que les associations de distribution, on peut trouver que c'est un lien aider qui va être très fort, et dans tous les cas il y a une violence dans la relation. Mais l'important, ça va aussi de créer un lien, et parce qu'il y a des en sachant que au moins à Bruxelles ça va être possible pour une partie des personnes de trouver comment manger notamment, et que notre apport il doit être autre, pas être des petits supermarchés ambulants avec du café, mais essayer de parler
à une relation plus humaine, en quelque sorte. Et on va retrouver alors aussi ça dans votre projet chez La Grue, alors de proposer une bibliothèque qui touche finalement directement à des valeurs de culture, d'agrandir aussi les connaissances, même de ceux qui n'ont pas spécialement les moyens. Donc vous avez aussi un peu cette relation, et comment est-ce que vous allez, vous pensez en tout cas gérer pour notamment les livres, la gestion des emprunts, qu'est-ce que dans un futur proche ou moins proche vous espérez pour ce projet?
Effectivement, après j'ai l'impression qu'on a été moins confronté à se poser aussi fort en profondeur les questions en fait aider qu'il y a pu y avoir comme réflexion chez les maraudes, qui est très intéressant. Et nous, on s'est beaucoup retrouvés aussi à... Pardon, je me suis un peu perdu dans mes idées.
Oui. Par rapport à la bibliothèque, comment est-ce que vous comptez la mettre en place, en quelque sorte, par rapport au public visé? Qu'est-ce qui sont les ressources dont vous avez besoin, en quelque sorte?
Finalement, en fait, on n'a pas énormément, de notre expérience, de nos 2 années de bibliothèque, besoin d'énormément de ressources différentes. Donc nous, on fonctionne de manière totalement bénévole et on a des simples coupons d'emprunt. Et en fait, dans notre temps libre, on restructure ces coupons d'emprunt qu'on met dans un petit carnet. Et à partir d'un mois ou deux, on essaie de recontacter les gens s'ils n'ont toujours pas contacté les bouquins, rendu les bouquins.
Oui.
Après, voilà, ce qu'on essaye aussi de développer, et je pense que c'est là aussi où il y a quelque chose de l'ordre de la relation humaine qui se recrée, c'est d'être plus qu'un lieu de passage et de bibliothèque, mais aussi un lieu de rencontre. En fait, utiliser la culture et le livre comme prétexte à la rencontre, prétexte à la discussion. Et c'est ça qui est très important pour nous, pour aussi casser parfois la difficulté à rentrer dans un livre en entier. Et donc, que ce soit par l'édition de brochures qui permettent de synthétiser certaines idées, ou la volonté de faire des projections et d'en discuter après, ou de discuter ensemble autour d'arpentage de livres qui nous permettent de rendre cette culture plus accessible et en fait sortir les théories militantes, théories politiques ou autres du cadre purement universitaire, et en fait de pouvoir les ancrer dans des réalités de terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi pas mal de liens, je pense, avec les maraudes dans les autres activités que la bibliothèque a envie d'apporter, et de ne pas rester cantonné à cette place culturelle, et de pouvoir faire de l'aide administrative, parce que c'est quelque chose qui nous touche aussi très fort, cette violence administrative, ou alors simplement le plaisir de se retrouver autour de repas ou de moments partagés qui permettent aussi de recréer un lien humain et de l'entraide sur base de ce lien humain.
Oui, et donc actuellement, vous trouvez par exemple que dans des bibliothèques qui vont être communales, par exemple, vous ne trouvez pas ce lien dans les démarches qui sont déjà mises en place vis-à-vis de ce qui touche en tout cas aux bibliothèques d'État?
En fait, on se différencie du coup des bibliothèques d'État, comme vous dites, parce que déjà, on est un lieu OTGRE et bénévole, du coup, où il y a quand même pas mal de publics différents qui se rencontrent autour de questions, de discussions, de thématiques diverses et variées. Et la bibliothèque, elle se nourrit de ça. Et oui, comme disait Julien, c'est pas un lieu de passage, c'est un espace, en fait, où il y a beaucoup de choses qui se créent par les personnes qui s'y rencontrent, etc. Et qu'on va au-delà de la bibliothèque en organisant des arpentages, en mettant en place des outils de compréhension, pouvoir créer des espaces où on partage du savoir, et où, entre de grandes guillemets, oui, on sort du langage universitaire et on puisse démocratiser, entre guillemets, et pouvoir comprendre et même apporter de la vulgarisation, de grosses théories, etc. On a aussi organisé pas mal de projections, d'ateliers, de trucs un peu plus créatifs, d'auberges espagnoles, juste créer du lien en fait et pouvoir vivre dans un quartier, etc.
Et donc en plus du concept de bibliothèque vient se greffer un combat un petit peu particulier, enfin particulier non parce que aujourd'hui on en parle quand même beaucoup, mais en tout cas particulier pour une bibliothèque, c'est notamment votre lutte vis-à-vis en tout cas du système de police actuel. Est-ce que vous pouvez m'en toucher un petit mot pour expliquer un petit peu les tenants et aboutissants en fait de ce combat?
Ok. En gros, au fil de nos expériences personnelles, individuelles, mais aussi collectives, et du constat que, on estime en tout cas que la police est un système violent, raciste, homophobe, classiste, validiste, que sais-je, tous les istes. Du coup, on part de là et on essaie de créer un terreau fertile à des réflexions autour de, en fait, est-ce qu'on peut restreindre l'action de la police? Est-ce qu'on peut s'en passer? Comment on fait? On prétend pas du tout avoir une solution, mais on a la volonté en tout cas de créer des solutions collectives, d'auto-organisation populaire et citoyenne, de pouvoir se responsabiliser face à des conflits, de pouvoir interagir dans des situations et de prendre part et de pouvoir avec ça, oui, repousser au plus en fait l'action de la police qui, en fonction de tes privilèges, peut être vécue de façon très violente. Et enfin, on part du constat qu'en fait, quand on appelle la police, on n'est pas forcément plus en sécurité. Et ça peut parfois, même souvent, aggraver des situations et mettre des personnes en danger. Et du coup, voilà, on veut s'éloigner de ça et pouvoir s'émanciper et créer autre chose.
Merci. Je voulais du coup rebondir et poser une question à Raphaël par rapport à justement la police. Est-ce que tu souhaites nous parler un peu du public avec qui tu travailles et de ce qu'ils peuvent ressentir ou des interactions qui peuvent se produire avec la police?
Oui, oui. Bah, je pense que pour les personnes sans chez soi, il y a un rapport à la police qui va être direct, mais il y a aussi beaucoup de violences qui vont être subies avec cette... Bah, non seulement par les personnels de sécurité dans les métros ou dans les gares qui vont appuyer leur pouvoir et les surpasser avec la menace de la police, avec beaucoup de choses que seule la police a le droit de faire. Et ce pouvoir de police va être empiété et pris par plus en plus d'acteurs qui vont se permettre d'avoir la violence que peut avoir la police sur différentes populations. Puis il y a aussi un rapport très dur de la police pour les personnes en rue qui vont être... Il y a un contrôle très important. Et si on parle des personnes en rue, il y a une part très importante, surtout là depuis un an, de personnes qui sont demandeurs d'asile ou personnes sans papier. Et pour eux, la violence de la police, c'est la violence du contrôle, c'est la violence d'une présence qui peut être considérée comme illégale à tout moment, et une menace flottante, directe et indirecte, qui prend une place constante. Et puis, y a aussi des inactions, des choses où là, on va se retourner vers la police qui ne va pas apporter de solution, mais il y a des personnes qui sont... Il y a des personnes expulsées de leur domicile, il y a des victimes de violences conjugales qui vont se retrouver à la rue, ou des choses où soit la police est actrice du rejet, soit être la personne vers qui les gens vont se retourner et n'auront pas de solution. Et voilà.
Oui, il y a quand même un constat, peut-être que la police prend moins en compte une personne qui va être à la rue que quelqu'un qui va finalement être chez soi, avoir une maison. Dans certains cas, en tout cas, on peut constater par exemple une certaine inaction, c'est-à-dire quelqu'un se ferait agresser en rue, on pourrait presque le considérer au final comme normal, comme si elle n'avait pas à être là, alors que ça n'est pas un choix, alors que ben, c'est un citoyen finalement comme les autres. Vous avez déjà eu des constats comme ça alors de... Est-ce que vous avez une façon, vous, de réagir quand vous constatez qu'il y a eu peut-être un abus de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou c'est un petit peu complètement bouché?
Il y a quand même une absence de compétence de la police parce que, oui, il y a une double part. Ils vont subir plus fort que d'autres les violences de la police qui va être bien plus stricte, bien plus sévère et bien plus... En outrepassant leurs prérogatives. Mais aussi, de l'autre côté... Il y a des violences importantes subies en rue. Et les gens vont vraiment, il y aura eu pas de confiance dans la police pour se retourner et pour des publics très différents. Vraiment des personnes qui disent ça te fait violer et qui disent mais je vais pas aller à la police, ça ne sert à rien. Donc c'est des choses où des fois on peut essayer de réorienter vers des institutions qui sont plus à même d'apporter des solutions. Mais le rapport à la police est compliqué. Il y a une petite brigade de policiers qui je crois ils sont 3 ou 4 qui pour le travail avec les personnes en rue et qui bon je avec lequel bah j'ai personnellement pas été beaucoup en contact mais qui l'option de la police pour les personnes en rue qui est censée avoir un rapport social et après on peut avoir pas mal de critiques sur la place de la police pour ça mais ils sont 4 pour Bruxelles donc pour une population de 6000 ou au moins 6000 personnes en situation de rue ou sans chez soi donc c'est un manque de moyens et il y a un manque de personnes, c'est pas la solution d'avoir des flics qui font ça, quoi.
Oui, mais c'est ça. En tout cas, aussi, on n'investit pas les forces et les hommes qu'on a dans les bons combats, au final. Peut-être qu'on met un petit peu trop, je me tourne aussi vers la grue, peut-être qu'il y a un petit peu trop de personnes mises en place pour de la répression, par exemple, citoyenne, et pas assez... pour les personnes qui pourraient être considérées comme vraiment dans le besoin de cette aide et de cette protection. C'est un peu dans ce cas-là, je vous pose la question, même si en introduction d'émission, vous l'avez dit, vous n'avez pas de réponse, hein, et c'est normal, des problèmes comme ça, c'est toujours très compliqué de dire j'ai la solution, et comme je l'avais dit précédemment, si on avait la solution, je suppose que tout le monde voudrait l'appliquer. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport vis-à-vis de la police, et est-ce qu'il faut... dans un certain cas, est-ce qu'il faut la changer, modifier fondamentalement son fonctionnement, justement peut-être en remettant plus de policiers pour des causes qui en ont besoin, ou est-ce qu'il faut complètement démanteler le système, est-ce qu'il faut le remplacer par un autre système, ou est-ce qu'il ne faut pas du tout de système et espérer qu'on s'autosuffise alors?
Ben, merci pour cette question qui nous permet en fait d'aborder en fait assez frontalement ce qu'on a envie d'amener à Esperanza avec la grue, qui est en fait la question de l'abolition de la police. Qui est une question qui n'est pas si simple, parce qu'évidemment, on se retrouve confronté à ce besoin de sécurité que je pense qu'on ressent toutes et tous, et auquel la police répond. Mais cependant, ça nous semble vraiment important de pouvoir amener ce point-là, justement sur tous les fondements problématiques en fait, que pose la police aujourd'hui. En fait, son racisme structurel, les raisons presque qui l'ont amené à exister, qui finalement fait que... elle fait son travail de protection de la propriété privée et de maintien de l'ordre établi d'un système qu'on constate chaque jour aujourd'hui un peu plus est problématique, que ce soit au niveau écologique parce que c'est le plus urgent, mais à extrêmement beaucoup de niveaux, reproduit des inégalités, reproduit de l'injustice. Et en fait, on veut défendre ce postulat de l'abolition de la police et pas seulement partir dans la réforme, justement pour toutes ces raisons qui font qu'on voit des problèmes structurels. Après, pour les réponses alternatives, c'est là aussi tout l'enjeu des ateliers qu'on essaye d'organiser ici pour essayer d'imaginer ensemble un monde sans police, parce que pour réussir vraiment à l'imaginer, il faudrait reconstruire des communautés qui soient plus fortes, ce qui sont aujourd'hui assez faibles, parce qu'il y a aussi eu ce rapport qui se crée avec le temps de redonner tout le pouvoir à la police. Et du coup, quelque part, en perdre nous en tant que citoyens. On a perdu l'habitude aussi d'agir, de se poser les questions ensemble, de comment est-ce qu'on réagit quand il y a une situation pareille qui nous arrive. Et donc on pense sincèrement que c'est plus intéressant d'aller dans la direction du définancement, en tout cas actuel, de la police, plutôt que de leur donner plus de moyens, plus de formation, etc. Accepter d'aller dans la direction du définancement de la police pour donner plus de moyens à des gens qui sont... vraiment plus formés et dont l'objectif est de soigner les injustices, soigner les inégalités, soigner les blessures. On remarque très bien aujourd'hui que la police est souvent incapable en fait, de s'occuper des gens qui ont été blessés, des victimes. Ils savent punir, ils savent réprimer, mais ils ne savent pas faire le travail indispensable de s'occuper bien d'une victime. Or, que ça fait, dans le cas d'une gestion d'une affaire conflictuelle, c'est une grande part de la situation qui est tout à fait délaissée, et entre autres parce que en fait derrière le statut de l'institution policière, il y a une représentation qui fait qu'en fait les gens qui ont envie d'aller vers ce métier sont poussés par une certaine représentation, et donc il y a un désintérêt aussi de cette question dans le corps qui se reproduit en fait chaque jour de plus en plus.
Les motivations au final de la police et de devenir policier ne seraient donc pas les bonnes. Mais est-ce que alors à ce moment-là, on pourrait dire, mais alors en quelque sorte, il suffit juste de mieux choisir les policiers. Il suffirait de prendre des gens justement qui ont un intérêt plus tourné vers l'humain. Et alors est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait quand même continuer à garder finalement un système de police si, entre guillemets, il n'est pas défaillant, mais en gardant quand même toujours une répression?
Mais en fait, ça poserait du coup la question de pourquoi garder le système de police en tant que tel, qui en fait aujourd'hui... répond à une quantité de missions extrêmement variées, extrêmement différentes. Et en fait, ça nous semble important de pouvoir aussi reclarifier quels sont les objectifs de chaque chose pour pouvoir y répondre plus efficacement. En fait, que les personnes qui ont sincèrement envie d'aider l'humain, en participant, que ce soit à des ASBL qui permettent d'aider et de pouvoir en fait créer des bonnes fiches de listes et de visibilisation de ces ASBL pour que les personnes victimes puissent être redirigées vers les bons collectifs. En fait, ça a finalement plus de sens a priori que d'essayer de faire perdurer une institution qui en fait a besoin d'une tonne de pansements tellement énorme pour réussir à la faire perdurer, ça ne sert à rien. C'est son fondement en fait qui est déjà problématique. En fait, la police a été constituée pour protéger les classes dirigeantes, les classes propriétaires de la menace de la précarité. Assez rapidement, on a vu les centres d'emprisonnement pour mendicité. Et en fait, dès ces fondements, en fait, on a eu ce mécanisme-là qui était mis en place de mettre dehors les précaires, les enfermer. Ça nous semble en tout cas illusoire de croire qu'une réforme de la police, même avec beaucoup de bonne volonté, ne retourne pas dans des travers et n'arrive pas en fait à aller jusqu'au bout du problème.
Mmh. Et donc c'est un petit peu alors remettre la responsabilité entre les mains du tout à chacun, du citoyen de base en quelque sorte, lui dire tu aideras ton prochain. Cependant, là je pose un petit peu la question piège, la question que tout le monde doit poser à votre stand, n'est-ce pas un petit peu utopiste d'espérer que tout le monde soit gentil ? Parce que si tout le monde était gentil, est-ce qu'il n'y aurait pas juste pas besoin du tout de la police si personne ne commettait de crime? Qu'est-ce qu'on ferait alors dans un monde où il n'y a pas la police?
Mais c'est la police qui crée la criminalité. Enfin, c'est la police, elle fonctionne avec la justice pénale. Et en fait, c'est eux qui ont dit ce qui était criminel et ce qui ne l'était pas. Et la criminalité, elle va aussi de pair avec la précarité, mmh. avec les soucis de santé mentale, avec les discriminations, avec genre... tout un système en fait qui fait que il y a des personnes qui sont complètement exclues et qui sont complètement pas représentées, et moi j'ai l'impression qu'il y a des liens super forts entre la criminalité et la situation individuelle des personnes et même des groupes en fait qui sont juste discriminés et précarisés.
J'aurais envie aussi de reprendre que j'ai pas l'impression que ce qu'on propose est une utopie, dans le sens où je ne pense pas qu'on parte du principe qu'on pense que tout le monde va être gentil et aider son prochain. En fait, les violences, ça continuera d'exister, quel que soit le monde en fait, dans lequel on va vivre, parce qu'en fait, l'humain fonctionne aussi comme ça. Et en fait, la question de la gestion des violences, elle, par contre, et non pas à tout à chacun, mais doit être reprise collectivement. Et c'est là aussi où la notion de communauté est assez importante, c'est de reprendre ensemble ces questions qui sont hyper importantes, de peut-être créer des groupes de personnes pour pouvoir apporter du soutien pratique et matériel dans le cas de violence.
Un petit peu finalement comme les maraudes font avec par exemple les personnes à la rue. Finalement vous aussi vous avez cette démarche d'aller vers ces gens qui... En soi, vous n'avez aucune responsabilité vis-à-vis d'eux. On ne vous donne pas l'obligation de le faire, mais d'une certaine manière, vous pensez à l'humain avant tout, sans jugement, et vous leur apportez ça. Voilà, petit aparté, parce que ça... en tout cas, ça a un écho avec Raphaël qui est ici.
Mm-hmm. Ah bah oui, par rapport à ça, peut-être dans l'objectif de... quand vous parlez de prendre... c'est à la communauté d'avoir un rôle, c'est de... En fait, c'est un peu... je pense qu'on peut se rejoindre sur le fait qu'il y a... C'est des choses qu'on va accepter ou non en commun, et quel projet commun on va construire, et avec des choses du modèle actuel qu'on trouve inacceptable, et que ça demande un effort de projection, ça demande un effort de préparation, parce que c'est penser à des alternatives dans un monde qui l'est pas encore, mais oui, que ce soit abolir la police ou se dire que tout le monde doit avoir un logement, c'est juste des prémices basiques d'une réflexion plus grande, mais qui doit être construite collectivement et prise en charge collectivement.
Mais en tout cas, merci énormément de cette rencontre. Merci d'avoir participé. Voilà, même s'il y a eu des questions peut-être un petit peu plus compliquées, mais c'est ça qui permet d'avancer. J'aime toujours me mettre dans la peau du détraqueur afin de donner déjà des bons arguments. Merci beaucoup aux maraudes et donc à la grue que vous pourrez retrouver toujours ici au Village des Possibles sur Esperanza.